vous vous apprêtez à écouter « C'est quoi le rapport ?». Tout au long de cette aventure, on vous invite à nous transmettre vos remarques, vos questions, vos désaccords, afin qu'on puisse les prendre en compte pour une discussion au 8e épisode qui fermera ce premier cycle de podcast. On vous souhaite une bonne écoute.
Second souffle,
un méta-réseau
pour le déploiement
de l'éthique en société.
Cherchons ensemble, si vous voulez, les lois de la société et le mode dont ces lois se réalisent. Après avoir démoli tous les dogmatismes a priori, ne nous posons pas en apôtre d'une nouvelle religion. Accueillons, encourageons toutes les protestations. Flétrissons toutes les exclusions, tous les mysticismes. Ne regardons jamais une question comme épuisée.
Second souffle, un collectif libertaire
et anti-agiste.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Vous écoutez C'est quoi le rapport, le premier podcast de Second Souffle. Merci à Studio Zef, une radio associative de Blois qui nous prête le matériel, et merci à l'association éducative de la Butte, association de Touraine qui nous prête ses locaux pour qu'on puisse travailler ici. Je suis toujours accompagné de Roman, Augustin, Thomas et Raph. Et aujourd'hui, on va parler de motivation. Alors Thomas, dis-moi, qu'est-ce qui nous amène à faire des choses?
C'est une vaste question que tu me poses là. Je crois que ce qui nous pousse à faire des choses, ça va être parce qu'on a peut-être envie de les faire, parce qu'on désire les faire. Alors, qu'est-ce qu'on désire, pourquoi, comment, etc. C'est aussi une vaste question. On va essayer d'y répondre, je pense, à travers cet épisode-là. Je crois qu'on a des motivations à faire en fonction de ce qu'on a pu vivre durant notre vie passée. On a déjà dit qu'on était déterministe sur ce podcast-là. Et plus généralement, il y a pas mal de personnes déterministes à Second Souffle. L'idée du déterminisme, c'est de se dire qu'on est un peu la somme de toutes les expériences passées qu'on a pu vivre. Donc chaque expérience a des effets sur nous, des effets plutôt tristes ou plutôt joyeux en fonction de la rencontre. Et qu'à force d'avoir rencontré des choses, en gros, on se construit, quoi. C'est ça le déterminisme. Et du coup, on aura forcément un peu d'envie, un peu de désir à faire des choses qui nous ont rendus joyeux par le passé. Et les choses qui nous ont rendu tristes, on va peut-être pas vouloir les reproduire. J'ai l'impression de décrire ici des platitudes, hein, mais on va repartir de cette base-là pour construire un peu plus. La motivation, c'est quelque chose qui est à développer. Le mot seul ne peut pas suffire, selon nous. On a la question de la motivation interne qui vient de l'intérieur. Il y a Roman qui en avait parlé, il me semble, il y a quelques épisodes. Il y a motivation externe. Et il y a de la motivation intégrée aussi, ça veut dire peut-être qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui nous est arrivé, et puis on l'a intégrée en nous, peut-être au point qu'on croit qu'elle vient de nous. Par exemple, pour moi, je pourrais croire aujourd'hui que la motivation à être directeur, animateur de colo, c'est quelque chose qui vient de moi, c'est un truc qui était dans ma nature, je suis né comme ça, j'ai eu envie de l'être, je suis voué à être animateur ou directeur, c'est mon truc, quoi. Alors je pourrais le croire comme ça, je ne le crois pas comme ça. Je crois plutôt que j'ai eu plein de rencontres par le passé autour de l'éducation populaire, j'ai rencontré des animes, j'ai été enfant aussi, colon, dans des centres de vacances qui m'ont donné envie de devenir anime, puis directeur. Et directeur parce que j'ai rencontré des directrices et des directeurs qui m'ont aussi donné envie d'explorer ce champ-là. Et donc j'ai intégré des choses, je me les suis appropriées. Je ne veux pas croire par contre que c'est que de la motivation interne. Ce serait mentir d'une certaine manière, ce serait ne pas voir des choses qui m'ont construit. Voilà, je pense que c'est un bon point pour commencer et surtout que je vois bien en fait que mes motivations ont changé. Quand j'étais anime à 17 ans, je n'avais pas rencontré encore d'une certaine manière l'animation qui se politisait, qui avait envie d'agir avec des intentions pédagogiques libérantes pour les enfants, etc. Ça, je l'ai rencontré bien plus tard, peut-être 6 ans après. Ouais. Et effectivement, ma pratique a changé à partir du moment où j'ai aussi rencontré cette animation-là. Donc je vois bien à ce moment-là que j'intègre des choses et que j'essaye de me les approprier, mais j'ai du mal à me dire que c'est de la motivation interne, bien que j'essaye au maximum de ce que je peux faire de la rendre interne, quoi. T'as envie de parler, Raph, je te vois
Non, mais je me disais que, enfin, je connais un peu ton parcours, et en plus, ce qui est amusant, c'est que tu dis qu'elle n'était pas forcément politique au début, mais il y a aussi une question de perception et d'information, parce qu'à la base, l'asso dans laquelle tu as commencé à être enfant et ensuite à Nîmes, elle avait une histoire qui était une histoire bénévole. Enfin, il y avait quelque chose de politique, ouais, à la base, du coup, mais c'était pas encore dans ta perception, tu mettais pas le sens que. Enfin, voilà, donc il y a une question d'information et de rapport aussi, et ces rapports, ils peuvent se découvrir petit à petit. Et ouais, je faisais signe que, que j'avais envie de parler, dans le sens où on disait le déterminisme, d'un point de vue déterministe, on n'est que le résultat de nos expériences. Et souvent, il y a un vieux débat sur l'inné et l'acquis là-dessus, pour pouvoir le dépasser un peu. Quand on dit on est que le résultat de nos expériences, il y a souvent les innéistes, enfin ceux qui disent que en fait on est avec des choses. Et ils ont raison de dire, ben en fait il y a des choses dans nos gènes, mais ce qui est codé dans nos gènes, c'est juste le résultat des expériences d'individus qui ont produit ces gènes-là. Et donc en fait, d'une certaine manière, c'est pas est-ce que c'est inné, est-ce que c'est acquis. Il y a une sorte d'articulation entre les deux.
C'est comment c'est construit. Hein.
Mais ça reste déterministe, en fait, la manière dont les gènes se transmettent et ensuite dont ils évoluent à l'intérieur de notre individu avec notre environnement. Donc notre individu, il est une sorte de... Enfin, quand je dis je suis Raphaël, je suis le résultat de mes gènes et de mes expériences, sans qu'il y ait besoin de mettre des quotas de c'est à tant de pourcent ça ou à tant de pourcent ça, puisqu'un gène seul sans environnement ne s'exprime pas et un environnement sans gène ne s'exprime pas non plus. Donc on ne peut pas mettre de quotas. Et il y a un moyen de dépasser ce débat tout en restant déterministe. Voilà.
C'est un débat, moi, que j'apprécie pas mal, justement parce qu'il ramène sur des notions de comprendre d'où est-ce qu'on vient en tant que personne, comprendre d'où est-ce qu'on vient en tant que société et en tant qu'espèce. C'est quelque chose que je peux avoir du mal à faire rentrer en adéquation, que ce soit vis-à-vis de ma propre philosophie personnelle ou vis-à-vis de ma posture dans mon travail, dans mon activité, qui est que... j'ai envie de gagner en options, que j'ai envie de pouvoir augmenter ma capacité à faire des choses. Et du coup, un peu sommairement, mais je pourrais dire que mon objectif, c'est aussi de gagner de la liberté. Et du coup, de réussir à mettre en adéquation comme ça les notions de déterminisme et d'essayer de comprendre justement qu'est-ce qui me fait aujourd'hui. Et d'un autre côté, dans une recherche de liberté, de pouvoir mieux explorer le monde, de pouvoir moins souffrir à son contact, de pouvoir moins être empêché et de mieux savoir ce que je veux. C'est souvent des choses qui rentrent en conflit.
Moi, ce que tu dis, ça m'interpelle dans le sens où, en fait, on ne dit pas qu'on ne va pas gagner une certaine forme de liberté, là. On dit qu'on va essayer le plus possible d'y enlever sa part de naïveté. C'est-à-dire qu'être libre, si on me dit être libre, c'est pouvoir évoluer de manière complètement libre dans un environnement, de pouvoir faire tes choix sans aucune influence, etc., actuellement, étant déterministe, je n'y crois pas. Par contre, si la compréhension de ce que j'ai vécu, la compréhension de la structure dans laquelle je vis, des structures dans laquelle je vis, des institutions, etc.
Des contraintes,
ouais, carrément. L'ensemble, en tout cas, de cette compréhension-là, si elle me permet de choisir un peu mieux les rencontres futures que je vais avoir à vivre, c'est-à-dire, j'ai déjà mal vécu cette rencontre-là, je suis capable de l'anticiper, de comprendre en quoi elle est néfaste pour moi, je ne vais pas m'orienter dans cette direction, je vais plutôt aller dans celle-ci, celle-là, etc. Et donc, dans ce cadre-là, on arrive à gagner une certaine forme de liberté en connaissance de ce qu'on est de manière déterminée. Ce n'est pas pour moi un point de vue fataliste ou pessimiste, ce n'est pas simplement ça. C'est plutôt même un point de vue optimiste, en fait, sur la vie. Et
on peut dépasser certaines...
C'est ça, ouais, carrément. Et pour être plus autonome.
Mm. Ouais, pour être plus autonome. Du coup, j'ai l'impression que ça nous fait revenir sur la question des motivations et des désirs. Puisque, en fait, ça nous demande de réexaminer d'où viennent nos désirs et nos motivations. Et aussi, en tant que pédagogue, qu'est-ce qu'on crée comme désir et comme motivation à apprendre ? Si on se dit, dans une perspective d'émancipation, ça veut dire qu'on permet aux gens d'avoir un espace d'autodétermination à l'intérieur de ce qu'on propose.
Oui, il y a une attention à avoir sur est-ce que les environnements qu'on propose, ils suscitent de la motivation interne ou externe ? Est-ce que, par exemple, il y a quelque chose à gagner à la fin ou pas ? Est-ce que... Tu vas vers un endroit parce que tu es intéressé par, le sujet, la chose qui s'y passe en elle-même, ou si c'est pour autre chose, ou que soi-même pour être avec quelqu'un que tu aimes bien, ou d'autres choses comme ça, quoi.
Je trouve qu'en fait, on a l'habitude de les identifier. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a des formes un peu grossières de ce que tu décris de motivation externe, de genre grosse punition, va au coin, je te frappe, des choses comme ça, ou genre, bah oui, ça c'est de la motivation externe, c'est de la menace. Ou alors, peut-être ça, on est un peu moins critique, mais des formes de récompense qui disent, bah si. Si tu travailles bien, t'auras un bon point, ou je te donnerai de l'argent, ou tout ça. Et ça aussi, c'est de la motivation externe. Et bon, j'ai dit que c'était des formes grossières, mais...
Ouais, c'est pas du tout des formes grossières. Hein. Moi, je me souviens de mon expérience en moyenne section d'école maternelle, un truc comme ça. Moyenne et grande section, où j'avais une... Je pense que mon institutrice était super gentille, mais il y avait un système de bons points. De bons points dans le fait d'être propre, dans le fait d'être appliqué au ciseau, à la colle. Et c'était une expérience qui était terrible pour moi. Je n'ai jamais été doué. Enfin, si, maintenant je le suis, mais ça nécessitait tellement de travail. Mais à cet âge-là, en tout cas, j'étais vraiment le pire de ma classe dans ce qu'on demande aux enfants d'école maternelle de faire. Et je me souviens d'un, je crois, Tristan dans ma classe qui était... Enfin, mais du coup, j'en ai gardé une image. Je vois son visage tellement ça m'avait frappé. Le fait qu'il était tellement bon aux activités d'art plastique qu'il était en permanence appelé au tableau en fin de journée pour recevoir ses bons points. Et comble, voilà. Du comble, c'était, il y avait les bons points, mais au bout de 6 bons points, on pouvait les échanger contre une récompense dans la boîte de la maîtresse, dans laquelle il y avait des bonbons, des jouets, des trucs et des machins. Et du coup, je crois que je me suis jamais servi dans cette boîte, j'ai jamais pu aller chercher quelque chose de cette boîte.
Je crois que Raph parlait de grossièreté dans un sens caricatural, c'est-à-dire qu'effectivement, oui...
Ça dépend les espaces.
Ouais, je crois pas que tu disais grossière dans le sens, elles ne sont pas communes et on les fait pas tellement elles sont grosses, quoi. C'était plus, à mon sens, quelque chose qui est connu, justement, qui est assez qui fait partie des pratiques communes. Par contre, il y a certaines formes de motivation externe qui sont beaucoup plus
insidieuses.
Ouais, petite, que, par exemple, il y a certains modes de séduction. Séduction, on n'en parle pas ici dans une simple logique de rapport amoureux, par exemple. On parle bien de comment est-ce qu'on arrive à dominer quelqu'un en ayant des comportements qui vont faire en sorte qu'elle va agir de sorte que ça corresponde à nos motivations, mais à nous. Donc, par exemple, si je déploie des rapports de séduction avec toi, Raphaël, pour que, par exemple, tu nettoies le jardin, là, je vais peut-être avoir quelques phrases de temps à autre en disant « Ah, ça serait quand même cool, Raph, que tu viennes aider au jardin.
Ah, » Ça fait plaisir quand je vois
c'est
ça.
C'est un truc, en plus, c'est pour tout le monde, c'est... Enfin, voilà, ça me fait plaisir, etc. Et donc, ça peut être beaucoup plus insidieux, quoi, la motivation externe.
Et à ce moment-là, je vais le faire. Je vais continuer de nettoyer le jardin ou nettoyer la cour parce que je suis content, enfin, parce que tu me valides dans cette activité.
C'est bien, Raph, c'est bien.
Voilà, tu me dis c'est bien, je suis content comme je t'aime bien, je suis content que tu me montres que tu m'aimes bien. Et du coup, je vais continuer de nettoyer la cour et le jardin, mais pas parce que ça me fait plaisir ou parce que j'y trouve du sens, mais bien parce que j'ai envie de recevoir cette affection, cette reconnaissance de ta part. Et à ce moment-là, on peut dire que ce n'est pas une motivation interne, mais que c'est un peu plus difficile à identifier. C'est dans ce sens-là où je disais que c'était grossier, mais...
Par exemple, si y a un filtre Snapchat ou Insta qui me rend plus beau, je vais peut-être avoir des gens qui vont avoir envie de me voir parce que j'ai une peau aussi belle et tout ça. Peut-être que le moment où une personne qui me likait, si elle me rencontre et qu'elle voit en fait que j'ai peut-être des problèmes de peau, que en fait j'ai une proportion du corps qui est pas tout à fait celle que je fais avec une retouche ou peu importe, eh bien si je me rends compte à ce moment-là qu'il y a une déception chez cette personne-là parce que je corresponds pas à l'image que je donnais à voir, bah j'aurais peut-être une tristesse à ce moment-là. Donc en fait, si je crois être heureux en mettant à ce moment-là des filtres, en faisant de la retouche photo, etc., etc., ça risque de me rendre plus triste en fait. Et donc là, il y a toute une complexité autour des motivations, parce que la motivation de mettre un filtre, elle n'est pas interne à ce moment-là. Ce qui serait une motivation plus interne, ce serait d'arriver à une acceptation de soi vis-à-vis du regard des autres, etc. etc.
Et encore une fois, on ne diabolise pas quelque chose en disant la motivation externe, c'est mal, et la motivation interne, c'est bien. C'est plus le fait d'identifier qu'elles existent. Et cette identification permet un tri qui permet de mieux comprendre pourquoi on agit ainsi et quelles sont les sources de notre motivation.
Mais, par exemple, j'ai beaucoup d'intérêt à lire des romans ou des trucs qui... Bref, peu importe, des trucs. Mais par contre, j'ai souvent un taux de concentration qui n'est pas très long et je me distrais beaucoup. Je visualise très bien que je me mets des motifs externes pour finir des livres, où je me mets des petites carottes, je me dis, ok, bon, ce livre il fait tant de pages, je vais essayer de me tenir à 10 pages par jour, ou j'en sais rien. Et donc, je suis consciente que c'est de la motivation externe pour finir des livres, et en même temps, j'ai une bien plus grande joie à avoir pu avoir accès au contenu de ces livres que de ne pas m'être mis des petites carottes de motifs externes pour les finir.
Est-ce qu'on n'approcherait pas du coup de l'autodétermination ? L'autodétermination, c'est être autonome, mais ce n'est pas qu'être autonome. C'est aussi être conscient de ses dépendances, de ses indépendances. C'est être en capacité de s'auto-réguler. Ça veut dire qu'on est capable d'agir sur soi, de sorte à modifier les rapports qu'on a avec les autres. C'est aussi connaître le milieu dans lequel, l'environnement dans lequel on évolue. Donc en gros, c'est connaître l'ensemble des structures qui nous déterminent.
Vaste programme.
Donc c'est un vaste programme, effectivement. Et donc là, dans ce que tu disais, Romane, jusqu'avant, ça me fait penser à l'autodétermination parce que tu disais, je me donne en gros des micro-motivations externes pour accéder à plus de joie derrière. Tu dis, ok, je sais que je suis d'une certaine manière dépendante à certaines motivations externes. Tu es capable de comprendre tes dépendances à certains endroits pour pouvoir accéder à plus de joie derrière. Donc en fait, tu es capable de modifier certains rapports que tu as avec tes indépendances et dépendances. Parce que tu as aussi conscience de comment t'auto-réguler, en fait.
Est-ce qu'on a défini l'autonomie ?
Il me semble pas. Je peux essayer, si vous voulez. Il y a un exercice assez amusant quand on dit c'est quoi le contraire de l'autonomie ? Et à ce moment-là, on dit c'est la dépendance. Et souvent, quand on demande c'est quoi le contraire de la dépendance, on peut avoir envie de dire c'est l'indépendance, et on hésite entre autonomie et indépendance. Il y a une petite confusion dans les termes. Si on revient à la racine du mot, on peut faire un petit exercice qui permet de trier un petit peu mieux les idées. L'autonomie, ce serait le fait de décider pour soi-même, et l'indépendance, ce serait le fait de ne dépendre de rien. Et il y a une distinction entre les deux. On peut être autonome sans être dépendant et être dépendant sans être autonome. Exemple, si je dis je ne sais pas couper avec des ciseaux, mais j'ai envie de couper une feuille avec des ciseaux, je peux demander à quelqu'un de m'aider à me montrer comment on fait et du coup à ce moment-là couper moi-même. J'ai été autonome dans le fait de dire j'ai envie de couper une feuille. Je décide de me mettre à couper une feuille avec des ciseaux, même si je ne sais pas le faire, il y a quelqu'un qui m'aide. À ce moment-là, je dépasse une dépendance, mais je suis autonome parce que c'est moi qui ai décidé de les couper. Si en revanche, quelqu'un me dit coupe cette feuille avec des ciseaux et que je sais le faire moi-même, alors à ce moment-là, je suis indépendant parce que j'ai besoin de personne pour pouvoir couper la feuille avec des ciseaux. En revanche, c'est pas moi qui suis à l'origine de la décision de couper la feuille. C'est quelqu'un qui m'a donné cet ordre. Et ça permet de faire le tri dans certaines conceptions qu'on a de l'autonomie et de l'indépendance. Et ça permet de pouvoir plus se concentrer sur du coup comment on définit la liberté.
Un autre exemple très rapide qui te permettra peut-être de parler de l'inverse, de l'antonyme d'autonomie, c'est la manière dont on qualifie certains employés, salariés dans des boîtes. Maintenant, il y a beaucoup le mot « Ah, vous êtes autonome ». J'ai l'impression que c'est un mensonge. Et qu'en fait, souvent, ils sont indépendants puisqu'ils ne choisissent pas les objets sur lesquels ils travaillent, etc. En gros, ils accèdent à un espace où ils vont pouvoir travailler seuls, mais sur quelque chose qu'ils n'ont pas choisi, en fait.
Et même en dehors de... Quand t'as pas choisi le sujet, ça, c'est aussi dans les écoles, les colos, de déclarer les personnes autonomes et après de juste laisser les personnes se débrouiller avec ce qu'ils savent faire ou pas, alors qu'ils sont totalement dépendants de toi pour certaines choses.
Ouais, l'injonction « sois autonome » est assez intéressante.
Ouais. C'est pas parce qu'on... c'est pas des paroles... Enfin, ça se veut un peu prescriptif, alors que ça l'est pas, quoi.
Oui, en fait, c'est une injonction, quelque chose qui est célébré, alors qu'en fait, c'est une demande. Moi, j'y entends une demande qui est « je ne veux pas avoir à t'expliquer ce que tu pourrais faire ou ce que tu devrais faire pour affronter tel problème ou telle situation.
Ouais. »
Sachant que j'ai une idée de la manière dont tu devrais le faire.
Ah oui, sinon c'est pas drôle.
C'est ça qui est insidieux.
Ça ressemble à du management néolibéral.
Ça ressemble à de la manipulation.
Tu veux dire que le management, c'est mis dans les écoles maintenant?
Et du coup, est-ce que ce serait possible de trouver le mot pour décrire ce qu'est ce salarié, cet employé-là, qui est visiblement indépendant, mais qui n'est pas autonome?
Est-ce qu'il serait hétéronome?
Je vous entends l'utiliser là depuis quelques jours, du coup, le mot hétéronomie, donc je vais essayer de proposer ce que j'en ai compris. Et en faisant simplement un parallèle avec l'autonomie, de si je suis autonome, ça veut dire que je suis capable de fixer mes propres objectifs, mes propres règles et mes propres manières d'accomplir mes objectifs. L'hétéronomie, au même, enfin, ça serait du coup le fait que quelqu'un d'autre le fasse à ma place, fixe mes objectifs, fixe mes règles et fixe mes manières d'atteindre mes objectifs.
Ouais, là, on vient de parler d'autonomie et d'hétéronomie, et c'est assez amusant, si on fait une synthèse de ce qu'on a dit depuis le début, on s'est dit déterministe, et donc déterminé qu'on est le résultat des expériences, de nos expériences vécues et des expériences vécues de nos gènes, en gros. Et là, on dit que l'autonomie, ce serait de décider par soi-même, mais du coup, est-ce que cette autonomie est possible dans un monde déterministe ?
De fait, moi j'ai tendance à répondre oui, mais parce que du coup j'ai des exemples qui sont précis et que je pourrais considérer purs, dans le sens où c'est possible d'en tirer des conclusions assez facilement, en tout cas des exemples simples. Quelqu'un qui est abandonné dans la forêt, s'il a appris par son environnement dans sa vie à comment faire pour construire une cabane et se nourrir, a priori il va trouver le moyen de survivre et de ne pas tomber malade, et on pourrait dire, dans cette perspective-là, qu'il a été autonome dans sa manière de structurer sa survie. Mmh. De ce point de vue-là, il a été autonome dans le sens où il a intégré des connaissances, des compétences, des motivations qui ont été créées par son environnement avant qu'il soit dans cette forêt. Et du coup, ces motivations qui sont intégrées, au départ, existaient effectivement à l'extérieur, sont peut-être des motivations qui ont commencé par être hétéronomes. Et on a commencé la conversation en disant que toutes les motivations étaient hétéronomes, ultimement, puisqu'en fait, il y a un moment où, au même moment où on est, tout ce qui nous cause est causé par des choses qui nous précèdent. Le débat sur lequel moi je rentre quand on rentre dans cette perspective-là, c'est que j'ai pas dit si la personne dont je parlais dans mon expérience de pensée dans sa forêt, c'était un zadiste ou si c'était un militaire. J'oppose, on va dire, entre guillemets, les deux approches pédagogiques sur cette question-là, parce que, clairement, personnellement, je veux pas proposer d'expériences pédagogiques, proposer des expériences de formation qui ressembleraient à un camp militaire aux personnes à qui je peux proposer de l'accompagnement. Et du coup, c'est un peu la difficulté que je peux avoir quand je vais chercher à susciter des motivations externes chez les gens que j'accompagne, par la proposition de liens qui soient agréables ou par des discours ouverts et honnêtes avec les personnes à qui je peux proposer de l'accompagnement sur ce qu'elles veulent poursuivre. La question est de savoir s'il a acquis ses compétences de manière forcée, sans qu'on lui demande son avis, ou c'est quelque chose à laquelle il a été contraint, ou c'est quelque chose à laquelle il a participé avec son consentement et par intérêt.
Et pour revenir un tout petit peu en arrière, j'ai l'impression que quand on arrive au point où on se dit peut-être qu'on est, enfin qu'est-ce qu'on fait quand on est dans un monde déterminé, c'est peut-être de, est-ce qu'on peut essayer de se mettre dans des situations nouvelles ou plus, enfin plus ou moins nouvelles ou inconnues, quitte à ce que ce soit inconfortable au début, mais pour intégrer des nouvelles possibilités qui peut-être seront plus confortables plus tard, et que même si on les choisit pas plus tard. Enfin, qu'on décide pas de se déplacer dans cette direction, qu'au moins on a ce nouveau panel à notre disposition. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que quand on essaye d'avoir des environnements suscitants, c'est une direction dans laquelle on peut aller, et pas de se dire oui, il y aura des gens peut-être un jour, enfin qu'il faut viser une totale autodétermination, mais que c'est juste un cap au loin, mais que tant qu'on va dans cette direction, c'est peut-être intéressant pour avoir plus de choix.
Ouais, parce que, enfin, ce que tu dis, ça me fait penser que on a des sensations d'autonomie et d'hétéronomie. Genre, quand tu parles de la direction de l'autodétermination et que c'est un peu le point au loin, en fait, quand on s'approche de ce point-là, moi, j'ai l'impression qu'on va sur le chemin de l'autonomie et j'ai l'impression que c'est possible de reculer et d'avancer. Et que au moment où il y a quelqu'un qui nous donne des ordres, au moment où il y a des choses qui nous déterminent fortement sans qu'on puisse s'en extraire, en fait, on ne va pas vers cette autodétermination-là.
Dans ce que tu dis, Roman, j'ai l'impression que, et dans ce que tu as prolongé, Raphaël, j'ai l'impression qu'il y a un truc lié à la confiance en soi, dans le sens où la confiance en soi, c'est quelque chose qui permet d'aller rencontrer des choses nouvelles pour nous, en fait. Donc, si je me sens en confiance, si j'ai confiance en moi, je vais m'autoriser à aller vivre des choses nouvelles, malgré que d'autres personnes aient pu en dire du mal. Donc si quelqu'un, en tout cas, ancré des préjugés en moi sur une expérience certaine, par exemple, aller faire un camp sous tente, c'est nul, il y a des moustiques, c'est difficile, etc., etc. Et que j'ai pas suffisamment confiance en moi sur les questions de d'autogestion, etc. Je vais peut-être pas parvenir à y arriver. Je vais peut-être même pas parvenir à m'autoriser l'expérience.
C'est ça.
Si j'ai confiance en moi, je vais parvenir à dépasser ces préjugés-là et je vais m'autoriser à vivre des choses nouvelles. Et du coup, sur ce que vous disiez aussi, sur l'environnement suscitant, ça questionne sur la manière dont on permet aux autres de rencontrer des idées nouvelles. Parce que, admettons que j'ai une idée qui soit plus vraie que celle que l'autre personne que je rencontre a, détient, possède en elle, c'est pas parce que mon idée est vraie, est plus vraie que la sienne, que la rencontre va se faire de manière agréable. Et du coup, en gros, la force intrinsèque de mon idée plus vraie ne suffit pas à modifier l'idée de l'autre. Il faut deux conditions à ça, c'est il va falloir que mon idée soit plus vraie, mais aussi il va falloir que la rencontre avec cette idée-là rende plus joyeux la personne. Donc en gros, pour pouvoir modifier ses idées, il faut que la personne rencontre une idée plus vraie et qu'il la rende plus joyeux ou joyeuse. Ça questionne du coup la manière dont on rencontre l'idée.
Je voudrais ajouter une dimension au schéma que tu viens de proposer, qui est un truc auquel j'essaie de faire attention aussi en tant que personne qui peut essayer de proposer des idées vraies, qui est que j'ai aussi envie que la rencontre soit joyeuse pour moi, pour pas que je vive mal soit la remise en question de mon idée, au sens où elle serait légitime, mais même dans le cas où ce serait une remise en question illégitime, que je le vive pas comme une rupture justement de ma confiance en moi.
Mais du coup, oui, je te rejoins Gaston, carrément, c'est ce qu'on essaye notamment d'écrire depuis le début, hein, dans le rapport à l'apprendre, c'est un rapport dynamique. Quand on est sachant, est-ce qu'on a un rapport aussi d'apprenant dans le geste d'apprendre à l'autre? Est-ce que nous aussi, on est prêt à apprendre de ses idées? Et c'est exactement dans ce rapport dynamique que ça s'inscrit. Donc effectivement, on essaiera d'aborder ça dans le prochain épisode. Tu parlais du consentement, on va essayer justement d'explorer la question de la confiance en soi également. Voilà, on vous dit merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine. C'était C'est quoi le rapport de Second Souffle et à bientôt.
Salut.
Salut. Salut.
Second Souffle,
un méta-réseau
pour le déploiement
de l'éthique en société.
Apprendre, c'est organiser la rencontre.
Second Souffle,
un collectif libertaire
et anti-agiste.